Donc bonjour à tous, je m'appelle Élodie Merlot, je suis chercheure à l'UMR Pégase à Saint-Gilles, pas très loin de Rennes. Et je vais vous présenter les résultats de travaux qu'on a menés récemment en élevage biologique autour des problèmes de supplémentation en fer et d'anémie des porcelets en élevage biologique. Donc c'est un projet qui a été financé notamment par un projet européen ERANET qui s'appelle Power. Donc, les besoins en fer du porcelet nouveau-né sont très élevés pour permettre à ce porcelet d'avoir une croissance très rapide. Donc, on estime ces besoins à environ 5 à 7 mg par jour. Donc, au départ, le porcelet va utiliser les réserves de fer qu'il a constituées pendant sa vie fœtale. Mais il va très vite à venir à bout de ses réserves, et donc en quelques jours en réalité. Et donc une deuxième source de fer pour le porcelet va être le lait maternel. Mais ce lait est relativement pauvre en fer, donc on estime que via le lait, il va pouvoir capter jusqu'à 1 mg à peu près de fer par jour. Et donc vous voyez que c'est largement insuffisant par rapport à ses besoins. Et donc, il y a un risque que le porcelet devienne anémié assez rapidement s'il ne trouve pas de fer via d'autres moyens dans son environnement. Et c'est pour ça qu'en élevage conventionnel, dans les 48 à 72 premières heures de vie, généralement, on supplémente les petits porcelets en fer. Donc, cette supplémentation, elle est faite le plus souvent par injection en intramusculaire ou intradermique de fer. Elle peut être aussi faite par supplémentation orale, par gavage. À partir du sevrage, vers 21 ou 28 jours d'âge en conventionnel, le porcelet va passer à une alimentation solide à base de céréales. Et donc, dans ce nouveau régime alimentaire, les apports de fer sont largement suffisants et donc le risque d'anémie pour le porcelet disparaît. Alors, en élevage biologique, il y a un certain nombre de spécificités par rapport à l'élevage conventionnel. Une spécificité qui saute un peu aux yeux, c'est le fait qu'on a une grande diversité d'élevages et on a une fréquence assez élevée d'élevages en plein air. Et en fait, que ce soit dans les élevages en bâtiment et en plein air, la pratique relative à la supplémentation en fer n'est pas du tout la même. Généralement, en bâtiment, la supplémentation en fer est pratiquée par les éleveurs bio. Alors qu'en plein air, la supplémentation en fer n'est vraiment pas systématique. Donc, ces différences de pratique, elles sont basées sur l'expérience empirique des éleveurs, qui ont l'impression qu'en plein air, il n'y a pas de problème d'anémie, de carence en fer des porcelets. Et puis, sur des données aussi de la littérature qui montraient qu'effectivement, quand on compare des porcelets élevés en bâtiment ou en plein air, les animaux élevés en plein air, même sans supplémentation, arrivent à avoir un statut en fer satisfaisant. Sauf que ces données de la littérature, elles étaient surtout basées sur des suivis où on a réalisé des mesures chez des porcelets qui étaient sevrés à 21, 28 jours, donc le même âge que ce qu'on a en conventionnel. Alors qu'en élevage biologique, en fait, le sevrage, il doit être réalisé après 42 jours d'âge, voire même parfois, dans certains élevages, il est réalisé encore plus tard, 49 jours par exemple. Et donc, ça veut dire qu'en élevage biologique, le moment où le porcelet va se mettre à manger de l'aliment solide, riche en fer, il est retardé par rapport au système conventionnel. Et donc, on aurait pu se demander si, du coup, le risque d'anémie n'était pas accru du fait que le passage à l'alimentation solide était retardé. Donc il y avait besoin de réaliser des études mettant un peu étudiant le statut en fer des porcelets dans les élevages biologiques, plein air et en bâtiment, pour voir si ce problème d'anémie était réel ou pas. Donc on a réalisé une étude de terrain. On a visité 9 élevages biologiques en bâtiment et 11 élevages biologiques en plein air dans le Grand Ouest de la France. Cette visite a été réalisée à peu près au moment du sevrage des porcelets, donc c'était entre 6 jours avant et un jour après le sevrage selon les élevages. On a essayé d'échantillonner 30 porcelets par élevage, donc parfois les élevages étaient un peu petits, on a échantillonné un petit peu moins de porcelets, issus de 4 à 7 portées par élevage, et à chaque fois on a pris soin d'échantillonner des portées issues de truies à la fois multipares et primipares. Donc au total, on a échantillonné 283 porcelets issus d'élevage en bâtiment et 296 porcelets issus d'élevage en plein air. Donc voilà les résultats. Vous avez ici un graphe qui vous présente les taux d'hémoglobine moyens des porcelets. Donc chaque barre d'histogramme représente la moyenne d'un des élevages qu'on a visités. Donc là, ce sont les élevages en bâtiment qui sont présentés. Et donc la pratique relative à la supplémentation en fer a été assez différente selon les élevages. Le premier élevage en rouge, là, l'élevage haut, c'est un élevage où il n'y a pas eu de supplémentation en fer de pratiquer. Le deuxième, en orange foncé, c'est un élevage où les porcelets ont reçu 100 mg de fer pendant les premiers jours de vie. Les 7 élevages suivants, orange, ce sont des élevages où les porcelets ont reçu 200 mg de fer pendant la première semaine de vie. Et l'élevage jaune, les porcelets ont reçu 400 mg de fer. Alors, il n'y a pas vraiment de consensus dans la littérature pour déterminer un seuil de teneur en hémoglobine en dessous duquel on peut vraiment dire que les porcelets sont anémiés. Néanmoins, dans la littérature, le seuil de 80 grammes par litre est assez fréquemment retrouvé. Donc là, j'ai tracé un petit trait au niveau du seuil des 80 grammes par litre. Et donc, vous pouvez voir que pour les élevages, on a supplémenté avec 200 ou 400 mg de fer. Il y a des chances pour que pour la plupart des porcelets, les taux d'hémoglobine soient satisfaisants. En revanche, pour l'élevage où il n'y a pas eu de supplémentation et celui à 100 mg, on est clairement un petit peu limite en termes de statut en hémoglobine. Vous avez ici les concentrations en hémoglobine des porcelets issus des élevages plein air. Donc en vert clair, ce sont les 10 élevages plein air qui n'ont pas supplémenté en fer les porcelets. Il n'y a pas eu d'injection. Et l'élevage en vert foncé tout à droite, c'est un élevage où les porcelets ont reçu 200 mg de fer pendant la première semaine de vie. Et donc vous voyez que les statuts en hémoglobine sont tout à fait satisfaisants dans l'ensemble de ces élevages plein air. Et si on trace une petite limite là au niveau de l'élevage plein air qui avait le taux moyen d'hémoglobine le plus bas des 11 élevages plein air, et ben vous voyez que cet élevage le plus bas, finalement, il atteint des moyennes en hémoglobine qui sont comparables numériquement, sans faire de statistiques, aux taux les plus hauts obtenus dans les élevages en bâtiment. Donc si on veut comparer statistiquement ces différents élevages, il y avait des pratiques un peu différentes, donc on ne pouvait pas comparer directement bâtiment plein air. On a juste comparé les 7 élevages en bâtiment ou homogènes en termes de pratique de supplémentation en fer, les 7 élevages orange où il y avait 200 mg de fer administrés au porcelet, on les a poulés, et on les a comparés aux 10 élevages vert clair, là en plein air, où il y avait zéro supplémentation en fer pratiquée pendant la première semaine de vie. Et donc on a fait des ANOVA pour comparer ces deux groupes. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement au niveau statistique, hein, que ce soit en termes de concentration d'hémoglobine, mais aussi en termes de volume des globules rouges, qui est un autre indicateur d'anémie, eh ben, le statut des animaux en plein air sans supplémentation en fer est meilleur que celui des animaux en bâtiment qui ont reçu les 200 mg de fer. Donc si on veut conclure sur cette étude, bah, c'est qu'en plein air, effectivement, vraisemblablement, il n'y a pas besoin de supplémenter les porcelets en fer pendant la première semaine de vie. Il faut croire que les animaux trouvent le fer dans leur environnement, probablement dans le sol, dans la terre, en fouissant un peu dans la terre. Néanmoins, quand on regarde la littérature, on se rend compte qu'il faut peut-être quand même faire un petit peu attention, parce que dans certains élevages, si la terre de l'élevage est particulièrement pauvre en fer, ou si elle a des caractéristiques biochimiques qui font que ce fer est peu biodisponible, donc qu'il n'est pas bien absorbé par l'intestin des porcelets, il peut quand même, dans certains cas un peu assez rares, y avoir des risques d'anémie. En revanche, quand les animaux sont élevés en bâtiment, là, la supplémentation en fer est clairement nécessaire. L'étude vient de montrer que 200 mg de fer par porcelet est vraiment un strict minimum. Ça peut même être parfois suboptimal, puisqu'on voit qu'en plein air, on arrive à des niveaux qui sont meilleurs que cela. Et donc, ça suggère qu'il faudrait peut-être trouver des solutions un peu plus efficaces que cette injection de 200 mg de fer pour supplémenter les porcelets en bâtiment, et notamment plus appropriées aux élevages biologiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par plus approprié aux élevages biologiques ? Bien, en élevage biologique, il y a un certain nombre de principes qui doivent être respectés. Le premier principe dont je voulais vous parler, c'est le principe d'écologie, qui dit qu'on doit préférer l'usage de produits naturels le plus possible. Alors, à cause de ce principe d'écologie, en élevage biologique, il y a un nombre très limité d'additifs alimentaires qui sont autorisés. Néanmoins, le carbonate ferreux, le sulfate ferreux et l'oxyde ferrique sont autorisés. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des solutions orales pour porcelets tout à fait acceptables en élevage biologique. Pourtant, quand on regarde ce qui est disponible dans le commerce sur le terrain, il y a peu, voire pas de solutions orales qui sont certifiées agriculture biologique et que les éleveurs pourraient utiliser. Donc voilà, ils sont obligés d'utiliser des solutions non certifiées bio. Un autre principe, c'est le principe relatif à la santé qui dit qu'on doit limiter au maximum l'usage de traitements médicamenteux en agriculture biologique. Et donc notamment pour les porcs charcutiers, un seul traitement médicamenteux va être autorisé dans la vie du porc. Alors attention, je dis un seul traitement médicamenteux, c'est à l'exception du traitement antidouleur au moment de la castration des petits porcelets mâles, à l'exception des vaccinations et du traitement antiparasitaire. Mais si l'animal tombe malade dans sa vie et qu'on doit utiliser un anti-inflammatoire ou un antibiotique, par exemple, on a le droit à une seule fois dans la vie du porc charcutier. Or, certains élevages certificateurs français, notamment, considère que l'injection de fer pendant la première semaine de vie est un traitement médicamenteux. Ce qui veut dire que si l'éleveur traite ses porcelets contre l'anémie pendant la première semaine de vie, eh bien, il va utiliser l'unique opportunité qu'il a de traiter son animal pendant toute sa vie. Sinon, s'il retraite l'animal une deuxième fois parce qu'il est malade, la carcasse va être, ne pourra pas être vendue comme bio, mais comme animal conventionnel, donc il y aura un manque à gagner important. Donc il y avait bien besoin de trouver des solutions alternatives à ce fer injectable qui soit plus adapté à l'élevage biologique. Donc on a réalisé une deuxième expérience où on a comparé trois groupes expérimentaux. On avait un groupe témoin qui a reçu le fer dextran par voie injectable. Alors on n'avait pas encore les résultats de la première étude disponibles et on a injecté 100 mg au porcelet et pas 200 mg. Maintenant on sait que c'est un peu insuffisant, mais sur la notice du médicament, il recommandait soit 100 soit 200 mg. Le deuxième groupe expérimental a reçu de la terre de l'élevage, puisqu'on avait vu dans l'expé précédente que le fait d'être en plein air et probablement de manger de la terre était suffisant pour avoir des apports en fer. Donc on a stérilisé la terre de l'élevage dans lequel l'expérience a été réalisée, qui était l'élevage biologique INRAE de porc organique. Et on avait analysé cette terre et on avait donc trouvé qu'elle contenait à peu près 50 g de fer par kilo de sol sec. Et le troisième groupe de porcelets a été supplémenté avec de la tourbe. Alors en fait, ce n'est pas vraiment de la tourbe, c'est cette tourbe, ce sont des boues issues de la rivière de Brière, qui se trouve dans le parc naturel de Brière, dans l'ouest, au sud-est de la Bretagne, excusez-moi. Ces alluvions de cette rivière sont considérées comme une sorte de tourbe renouvelable, c'est utilisé pour fertiliser les sols en horticulture. Et donc, on a utilisé cette tourbe qui avait une teneur en fer de 26 grammes par kilo de tourbe sèche. Donc, nous avons réalisé l'expérience en deux répétitions de 12 portées chacune, ce qui nous a conduit à avoir 12 portées avec le fer dextran, 8 portées, excusez-moi, avec le fer dextran, 8 portées recevant la terre et 8 portées recevant la tourbe. Donc les porcelets qui ont reçu le fer injectable ont été injectés à 4 jours d'âge, avec 100 mg par porcelet. Et pour les groupes terre et tourbe, les animaux ont reçu de façon journalière de la terre ou de la tourbe distribuée dans des augettes, de 4 jours d'âge jusqu'au jour du sevrage, qui était 49 jours dans cet élevage-là. Et les doses distribuées allaient de 150 g par jour et par portée tout au début de la supplémentation à 4 jours, pour atteindre 250 g par jour et par portée au stade du sevrage. Nous avons prélevé du sang sur 3 mâles et 3 femelles par portée à des dates différentes au cours de l'expérience, de 4 jours à 69 jours d'âge. Et nous avons également réalisé des pesées régulières. Donc, en ce qui concerne les résultats, vous avez ici un graphique qui vous montre la prise de poids des animaux de 4 à 69 jours. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les trois groupes expérimentaux. Vous avez ici les teneurs en hémoglobine sanguine. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que dès 20 jours d'âge, le groupe en jaune, qui est le groupe qui a reçu la terre de l'élevage, a des niveaux d'hémoglobine qui sont significativement plus bas que les animaux du groupe rouge, le groupe fer dextran, et les animaux du groupe gris, le groupe tourbe. Et à 41 jours d'âge, eh bien, les animaux du groupe fer dextran, en rouge, ont eux aussi rejoint des niveaux du groupe terre assez bas, et donc sont significativement plus bas que les animaux ayant reçu la tourbe. Et il faut attendre 69 jours d'âge au dernier prélèvement pour qu'il n'y ait plus de différence significative entre les trois groupes. Donc ce résultat nous montre que dans le groupe tourbe en tout cas, on a réussi, avec la terre de Brière, on a réussi à avoir un statut en fer satisfaisant pendant toute la lactation, ce qui n'était pas le cas avec les deux autres traitements. Alors pendant l'expé, on a eu un problème de diarrhée qui n'était pas prévu, des diarrhées à Escherichia coli. Et donc, au moment des pesées, on a pu compter le nombre de porcelets qui exprimaient ou non de la diarrhée. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'à 11 jours d'âge et à 20 jours d'âge, eh bien, on avait significativement plus de porcelets qui exprimaient de la diarrhée dans le groupe terre, comparé au groupe tourbe en bleu-gris, et que les animaux du groupe fer dextran étaient en effectif un peu intermédiaire entre ces deux groupes en termes de diarrhée. Donc on a donc observé plus de diarrhée dans le lot terre, et vu qu'on avait vu avant que c'était des animaux qui vraisemblablement étaient un petit peu anémiés dès 20 jours d'âge, peut-être même avant, on n'avait pas de prélèvement sanguin à 11 jours, on s'est demandé si ce plus fort taux de diarrhée n'était pas lié au fait que ces animaux, du fait de leur mauvais statut en fer, avaient aussi un moins bon système immunitaire. Donc pour conclure sur ces deux études, donc on a vu qu'en plein air, il n'y avait pas besoin de supplémenter en fer, que par contre en bâtiment, il faut absolument supplémenter en fer les porcelets, et qu'à ce moment-là, plusieurs solutions s'offrent aux éleveurs. La première solution, c'est d'injecter du fer avec voilà, la même solution que ce qui est pratiqué en conventionnel. À ce moment-là, il faut faire attention, puisque selon l'organisme certificateur qui certifie l'élevage biologique, ben, ce traitement peut poser ou non, peut être ou non considéré comme un traitement médicamenteux. Supplémenter avec la terre de l'exploitation, ben, on a vu que c'était un peu risqué, et que si vraiment l'éleveur veut se lancer et essayer de supplémenter les porcelets comme cela, ben, il faut vraiment faire des tests avec son vétérinaire, faire quelques MOQ sur les premiers essais, et s'assurer qu'avec la terre de l'élevage, ça marche. C'est, voilà, là, nous, dans notre essai, ça n'a pas bien marché. Et supplémenter avec de la tourbe, ben, on a vu que la terre de Brière donnait des effets très prometteurs. Alors c'est une première expérience, il faudrait peut-être la renouveler pour confirmer les résultats qu'on a observés. En tout cas, on a vu que c'était un enrichissement, en plus de supplémenter en fer, c'est un enrichissement très apprécié des porcelets. Bon, faudrait qu'on vérifie quand même la variabilité interindividuelle sur des plus gros effectifs pour s'assurer que dans une portée, tout le monde prend suffisamment de tourbe et tout le monde reçoit une dose suffisante de fer au final. Et puis là, on a utilisé la terre de Brière, qui n'est pas commercialisée actuellement pour porcelets. Donc, ça aurait pu être intéressant aussi d'aller tester l'efficacité d'autres tourbes, peut-être non renouvelables, mais que l'on trouve plus facilement actuellement dans le commerce. Je vous remercie pour votre attention.